géographie des hagiographes. Gilbert Lely, par exemple, nous dit en long, en large et en travers ce que Sade a fait tel jour, telle date, telle heure, qui il a rencontré, comment il s'est comporté, quelles lettres il a envoyées, et même Gilbert Lely nous donne le détail de ses actes de délinquance sexuelle multirécidiviste, et ça n'a cessé dans l'existence de Sade tant qu'il n'a pas été emprisonné. Sade était un délinquant sexuel. Ça me paraît extrêmement clair. Je donnerai des détails, des précisions, des dates et des noms. Comment est-ce que ce personnage qui fut réellement monarchiste peut-il être présenté comme un républicain, comme un modèle de démocrate, comme un révolutionnaire? Comment ce personnage qui nous a dit pique-pendre sur les femmes, et je vous citerai quelques textes qui sont effrayants, a-t-il pu passer pour une espèce de libérateur des femmes, une espèce de féministe avant l'heure? Comment ce personnage qui est phallocrate au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui met le phallus au centre de sa vision du monde et de sa vision des choses, c'est-à-dire le phallus en érection, il n'y a que ça qui l'intéresse, est déchargé, pour utiliser son vocabulaire qui se prétend matérialiste, comment cet homme qui a construit son monde autour de la phallocratie peut passer pour un ami des femmes, un ami du genre humain? Comment cet homme qui a été antisémite, à plusieurs reprises la chose est dite dans un certain nombre d'œuvres, même si on peut imaginer que son antisémitisme est plus un anti-judaïsme qu'un antisémitisme, enfin on pourrait préciser les choses, il y a de l'antisémitisme chez le marquis de Sade, comment est-ce que cet homme a-t-il pu être la référence de tant d'intellectuels au XXe siècle qui se sont présentés comme des progressistes, comme des révolutionnaires, etc. etc. Le personnage a également été présenté comme un philosophe des Lumières. J'ai eu l'occasion, soit pour ceux qui m'ont lu, entendu, écouté sur ce sujet-là, d'aborder la question au moment où j'ai consacré une année à ce que j'ai appelé les ultras des Lumières, de montrer qu'effectivement ce philosophe était un philosophe des Lumières noires, des Lumières sombres. Il nous faut une espèce d'oxymore pour essayer d'expliquer de quelle lumière il est question quand il s'agit du fameux marquis de Sade, et comment cet homme a-t-il pu passer également pour une espèce de penseur d'avant-garde. C'est la question, ou ce sont les questions, c'est la série de questions que je vous propose d'examiner. Comment est-ce que ce monstre réel, monstre textuel, monstre biographique, monstre littéraire, a-t-il pu devenir une espèce de héros au point qu'on ait pu parler, et qu'on parle encore aujourd'hui, du moins pour certains, du divin marquis? La généalogie de cette monstruosité, je l'ai cherchée, finalement, on la trouve assez facilement, assez simplement. Et c'est assez simple, vous savez qu'aujourd'hui, quand Sarkozy fait quelque chose, vous avez 10 ministres qui vous disent très exactement la même chose et qui passent sur toutes les ondes, on appelle ça des éléments de langage. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir penser, mais ça c'est le propre d'un ministre, on lui dit « voilà ce qu'il va falloir dire sur ce sujet-là ». Et vous avez des éléments de langage pour vous expliquer que le blanc, c'est le noir, que la droite, c'est la gauche, que le haut, c'est le bas, et que la destruction d'un régime social, c'est le progrès et la modernisation de la France. Eh bien, c'est Apollinaire qui propose les éléments de langage qui permettront à tous les sadiens, souvent des sadiques, à tous les sadiens de pouvoir justifier, expliquer, légitimer leur personnage, c'est-à-dire nous dire que ce monarchiste était un républicain, ce misogyne était un féministe, que cet antisémite était un homme fréquentable, que ce monarchiste qui célèbre toute la féodalité la plus triomphante était finalement un penseur d'avant-garde pour notre propre modernité. Et cette généalogie, on la trouve en 1909, très précisément, dans un texte étonnant d'Apollinaire. Alors, Apollinaire est incontestablement un génie de la poésie, ça c'est clair, on ne remettra pas ces choses-là en question. Ceci dit, il n'est pas aussi génial que ça quand il se met à penser, ou à manier des idées, ou à proposer des visions du monde, ou à donner des visions des choses. Donc, il y a, je vais vous donner un certain nombre, vous allez voir, un certain nombre de phrases d'Apollinaire qui sont consternantes, de sottises, si j'osais dire, de bêtises, ou de vues limitées des choses, ou de méconnaissance du marquis de Sade. Il avait besoin d'argent, il travaillait dans une banque, il a laissé tomber la banque et il a fallu vivre, donc il a vécu en prostituant un peu sa plume, ça et là, en faisant des ouvrages de commande. Il était lui-même assez érotomane, c'est, vous le savez, l'auteur des 11 000 verges, de quelques autres textes érotiques. C'est un personnage qui travaille comme nègre, documentaliste, comme on dit quand il s'agit de Bernard-Henri Lévy, pour la thèse de quelqu'un qui travaille sur les romanciers du XVIIIe siècle. Et il découvre là, pour l'occasion, le marquis de Sade qu'il ne connaît pas bien. Ma méthode, vous le savez, je vous dis, confronter l'œuvre publiée, confronter les fragments, les biographies, les correspondances et l'histoire pour essayer de voir comment fonctionnent les choses, et surtout lecture de l'œuvre.